vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Pour cette édition, nous nous rendons à Bonnemain pour rencontrer Florence et Antoine, deux habitants installés depuis 2017 dans un hameau de la commune. Florence et Antoine sont propriétaires d'une maison qui ne possède pas de fosse septique. Par conviction écologique, ils ont choisi un usage raisonné et limité de l'eau ainsi que l'usage des toilettes sèches. Ce faisant, ne mélangeant pas les eaux des toilettes des autres eaux, par exemple celles de la vaisselle ou des douches, ils revendiquent la possibilité d'utiliser d'autres techniques que la seule fosse septique pour traiter les eaux sortant de la maison. Chose que leur refuse le SPANC, à savoir le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes de Bretagne romantique. Face à une situation bloquée, et alors que des solutions alternatives à l'installation d'une fosse septique sont expérimentées ailleurs en France, Florence et Antoine ont choisi de témoigner d'une situation qui leur paraît absurde et qui ne tient pas compte de leur usage très écologique de l'eau. Témoignage que l'on va écouter. Sans plus attendre, vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Alors nous sommes ici à Bonnemain, en présence et chez Florence et Antoine. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes là, chez vous, devant votre maison, que vous avez achetée en 2017, il y a 8 ans, voilà, dont vous êtes devenu propriétaire, c'est bien ça?
Oui, bah, c'est la troisième fois qu'on est propriétaire, mais c'est la première fois qu'on a acheté une maison.
Vous avez l'idée, tout simplement, d'avoir des modes de vie durables, on peut le dire comme ça, de manière économique, donc écologique. C'est la question de l'assainissement qui nous intéresse, en l'occurrence, dans cet entretien. Vous avez choisi le fait d'utiliser des toilettes sèches, que vous utilisez pour le coup. Est-ce que vous pourriez nous en parler, de ce choix, tout simplement?
Alors on va commencer effectivement par le choix. En fait on avait cherché des maisons, et même en Bretagne, à partir de 2015, et on s'était bien rendu compte du problème de l'assainissement non collectif en dehors des bourgs, qui était rarement conforme et sur lesquels il y avait des travaux assez lourds à faire sur les maisons qu'on visitait en général. Et donc on a cherché plus ou moins à évacuer le sujet ou à s'intéresser au sujet de l'eau inversement, en s'intéressant à d'autres pratiques qui sont les toilettes sèches, qu'on a jugées carrément intéressantes, puisque non seulement on ne tire pas 30 litres d'eau de chasse d'eau par jour et par personne, mais on ne salit pas le reste des eaux qui sortent de la maison. Donc c'est en moyenne, c'est 150 litres par Français qui sont consommés entre les douches, le ménage, la vaisselle, tout ça, et bien sûr les chasses d'eau. Donc c'est 150 litres d'eau qui potentiellement peuvent retourner dans un flux sans être contaminés et pollués. Donc c'est ça qui nous intéressait d'abord.
Très bien, donc pour l'usage des toilettes sèches, sauf qu'il y a un hic dans l'histoire, c'est que de ces eaux, il y a aussi ce qu'on appelle, du coup, quand les eaux grises, les eaux ménagères, qui sont eh bien, les eaux qui ne passent pas par les toilettes, et qui peuvent être réutilisées pour le coup, aussi bien pour l'arrosage du jardin ou ces choses-là, ou tout simplement être remises en terre, qui pourrait, en tout cas du moins, l'être à travers des systèmes de filtres à broyat, on peut le dire comme ça. C'est ce que vous utilisez, vous empruntez?
Alors, d'abord, effectivement, le hic ne devrait pas en être un. Le hic est législatif, essentiellement parce que des eaux ménagères, c'est quasiment propre. Quand on en a des toilettes sèches, les toilettes sèches vont gérer 99% de la contamination fécale, 98% de l'azote et 90% des phosphates. Donc tout ce qu'on va considérer comme étant polluant dans l'eau, mais pas dans la terre, parce qu'une fois qu'on l'a remis dans un compost avec du broyat de bois, par exemple, de la sure, des feuilles mortes, que vous voulez en gros mélanger les déjections et quelque chose de carboné, ça va refaire de l'humus, du terreau, que vous allez pouvoir remettre dans le terrain. Donc il vous reste quoi? Il vous reste quasiment rien dans ces eaux. et essentiellement d'ailleurs une charge polluante qui est essentiellement ce qu'on appelle en DBO5 élevé, c'est-à-dire c'est des débris, des petits débris qui vont se dégrader très facilement en aérobiose, donc avec de l'oxygène. Et donc les couches supérieures du sol suffisent largement à dépolluer ces eaux. Et donc bah, nous c'est ce qu'on fait, après avoir bien regardé sur internet tout ce qu'on pouvait trouver comme solution. Et ben on a trouvé, entre autres, effectivement, il y a une solution avec du BRF. Mais nous, on a été intéressés d'abord par la pédoépuration, qui est une solution qui est pratiquée aux USA et en Australie par quelque chose comme plus de 20 millions de foyers, et qui est poussée en France par une association qui s'appelle Terreau, du côté de Nantes, je crois. Donc on a mis ça en place. Ça se résume à quelques coups de pioche et un tuyau pour aller déverser en superficie et en surverse de l'eau dans le terrain. Donc en gros, on arrose notre terrain. Et bah, le hic, on en revient là, c'est que c'est la légalité. C'est-à-dire que dans la loi, en 2012, un arrêté a rendu légal les toilettes sèches, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'était déjà une belle avancée, mais elle a demandé à ce que les eaux ménagères soient traitées comme des toutes eaux, c'est-à-dire un mélange d'eau vanne et d'eau grise. Et là, forcément, bah, y a un hic, puisque les solutions écologiques comme la nôtre ne peuvent pas traiter, et pour cause, des eaux vannes, et donc bah, ne répondent pas.
Quand vous dites les eaux vannes, pour les auditeurs et auditrices, ce sont les eaux noires, c'est-à-dire celles qui sortent des toilettes. Pour être précis, dans votre mode d'usage des toilettes et de l'eau, finalement, les deux sont dissociés. À savoir, il y a d'un côté les toilettes qui recueillent les matières, et de l'autre côté, dissociés, les eaux, ce qu'on appelle grises ou les eaux ménagères, tout ce qui correspond à l'eau de cuisine, à l'eau pour se laver, qui, elles, sont dissociées justement vraiment des toilettes. Donc, beaucoup moins pollué, pour le coup.
Dans notre cas, c'est vachement simple, puisque en fait, cette maison n'a jamais eu de toilettes à eau, pour dire ça comme ça, puisque nos prédécesseurs ont gardé les toilettes sèches, et que la précédente, bah, c'est une petite mamie qui a vécu toute sa vie ici, et qui avait la cabane au fond du jardin, on pourrait dire, qui a été retirée depuis, avant même qu'on arrive. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'eau pour... des toilettes ici. Donc on a un réseau qui est 100% séparé puisque l'autre n'existe pas.
Et pour le coup, donc, ces eaux grises sont peu polluées, sont réutilisables, moyennant peut-être un filtre. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement la manière dont vous filtrez les eaux ?
Alors nous ne les filtrons pas parce que ce sont des eaux très peu chargées avec une cuisine normale, on n'est pas une cuisine de restaurant ou collective. Donc on a des eaux assez peu grasses et puis derrière seulement 3 mètres de tuyau, c'est directement, comme je vous disais, ça arrose directement le terrain juste en surverse dans un fossé, on appelle ça une tranchée d'épandage, mais voilà. Et puis bah, c'est infiltré très rapidement vu que chez nous c'est... c'est limoneux sableux, donc on n'a jamais de stagnation ou quoi que ce soit. Donc, et il faut dire aussi qu'on consomme extrêmement peu d'eau. On est à 15 litres par jour par personne, donc un dixième de la consommation française en eau. Donc forcément, nous, on n'a pas besoin de beaucoup. Après, si jamais on avait une douche ou qu'on était quatre dans la maison, on pourrait justement penser à la filière avec du broyat de bois qui consiste en fait à avoir plusieurs puits d'infiltration, enfin, ou plusieurs tranchées et trous d'infiltration entourés de broyat de bois, juste, à mon avis, pour filtrer légèrement et puis pour faire en sorte qu'on n'ait pas accès à l'eau et que justement, il n'y ait pas de prolifération de moustiques ou quoi que ce soit. Avec ça, on peut augmenter de beaucoup la consommation, avoir une consommation complètement normale en fait, en quantité, en volume d'eau. Et enfin, si jamais on était une cuisine collective ou qu'on avait beaucoup plus d'utilisation de gras dans les eaux, là on pourrait filtrer en première intention les eaux juste pour ne pas qu'elles bouchent les tuyaux. En fait, du coup, on peut faire ça très simplement de façon écologique avec un filtre à paille. On met une petite botte de paille et puis toutes les semaines, on la rajoute sur le tas de compost et on met de la paille propre.
Je sais qu'il y a une expérimentation en cours depuis 2023 sur ces assainissements d'eau grise aux ménagères menées notamment par l'INRAE, qui donc se propose de faire une étude sur l'impact et sur la viabilité justement de ces filtres à broyat de bois pour filtrer les eaux ménagères. C'est bien ça ?
Alors en fait, eux, ils ont déjà fait des études qui permettaient de qualifier les eaux ménagères, parce que c'est des choses qu'on n'a en fait jamais regardées en France. On considère toujours que les eaux qui sortent d'une maison sont mélangées aux vannes et aux ménagères, et personne n'avait jamais cherché scientifiquement à essayer de qualifier la faible charge polluante en France de ces eaux. Donc ils ont commencé par faire ça, et puis maintenant ils cherchent en fait à faire agréer, donc à obtenir un agrément pour pouvoir... Alors, ils ne vont pas la commercialiser, mais j'espère qu'ils visent à ce que ce soit une installation rendue possible également par tout à chacun. Donc, leur solution qui s'appelle filière à broyat de bois, qui correspond plus ou moins à ce que je vous disais tout à l'heure. Et pour ça, donc, ça a été voté en 2024. Il y a une trentaine de maisons qui sont équipées dans ce cadre-là, et qui sur un test qui va durer plusieurs années, où ils vont mesurer et vérifier, faire un suivi, aussi bien en France métropolitaine qu'en Outre-mer.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement, compte tenu du cadre réglementaire actuel, ce qui pose problème compte tenu de votre mode de consommation de l'eau et d'utilisation et d'usage ?
Alors on a deux problèmes actuellement. Le premier, c'est comme je vous le disais, dans l'arrêté, quand on a autorisé les toilettes sèches, le législateur a ajouté l'obligation de traiter des eaux ménagères comme des eaux toutes eaux. Il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que scientifiquement, c'est complètement inepte, hein, parce que essentiellement, une fosse septique ou ce genre de choses pour les toutes eaux vise d'abord à faire une sédimentation, une séparation entre les matières un peu volumineuses, on va dire, qui arrivent suite aux toilettes, et qui vont les déposer au fond de la cuve, et une eau qui va pouvoir être débarrassée de ces matières, pouvoir après être infiltrée après plusieurs jours, au minimum un jour, on dit en général, mais bon, plusieurs jours, disons, dans la fosse. Après, elle peut passer dans un autre bac, et une autre partie du bac, et être infiltrée dans le terrain. Donc c'est vraiment le sol qui est pur, l'eau, de toute façon.
Donc cela signifie que les fosses septiques qu'on connaît, qui est le mode conventionnel, dominant, enfin traditionnel, ont pour rôle justement de séparer les eaux. Or vous, dans votre usage, vous le faites directement en amont.
Voilà, on le fait en amont. Et nous, on part du principe, un petit peu réel, que pour ne pas polluer une eau, le mieux, c'est de rien mettre dedans. Donc on n'y met pas les matières fécales, et donc elle n'est pas polluée. Donc nous, l'eau, quand elle sort de notre robinet, enfin de notre évier, etc., elle est plus propre que quand elle sort d'une fosse septique. Donc... Premier problème, c'est donc que là, dans la législation, en fait, on nous imposerait de traiter nos eaux ménagères comme si on avait relié nos toilettes. Et ça a un coût. En moyenne, une fosse septique, la pelleteuse, l'infiltration, machin, tout ça, ça va te coûter dans les 10 000 euros. C'est le prix moyen, on va dire, de l'installation. Dans une zone comme la nôtre, où on habite sur un rocher granitique en Bretagne, il suffit de regarder dans le hameau autour, les hameaux autour, la plupart des gens vont avoir une cuve qui va être au mieux semi-enterrée, et puis avec une pompe de relevage pour pouvoir relever les eaux en sortie de fosse, pour pouvoir aller les épandre plus loin. Parce que on peut pas jouer sur la gravité, on peut pas enterrer la fosse, tout ça. Donc ça peut faire des choses qui coûtent beaucoup plus cher que les 10 000. Et l'autre problème, c'est que nous, on ne rejette, comme je l'ai dit, que 30 litres par jour de la maison, 15 litres par personne en moyenne. Et donc à un dixième de la consommation française moyenne, aucune solution n'a de sens, aucune solution... toutes eaux n'a de sens parce que c'est juste complètement surdimensionné. Aussi bien dans les besoins d'épuration, il n'y en a aucun. Donc on paierait extrêmement cher pour quelque chose qui sert absolument à rien. Donc nous, ce qu'on souhaite faire reconnaître, c'est que quand on n'a pas de besoin d'épuration, c'est pas la peine de faire un énorme système à la Shadow derrière. Il faut faire quelque chose de simple. On a déjà, les toilettes sèches sont relativement des bonnes pratiques. Quand on vérifie comment fonctionnent des toilettes sèches, nous, c'est extrêmement rustique. En gros, on a un seau en inox, de l'autre côté, on a un bac à compost couvert. On sort nos toilettes quand elles sont pleines, on remue le tas de compost, on le laisse pendant un an, on l'accumule, on va dire, pendant un an. Après, on le déplace et on le laisse encore se transformer en humus pendant un an avant de s'en servir. C'est des pratiques. C'est quasiment rien en investissement. Tout est dans la main d'œuvre, j'allais dire, des gens qui s'en servent. Et ben, les eaux ménagères, ça devrait être pareil. Un coup de pelle, un coup de pioche, rajouter trois tuyaux qui coûtent trois fois rien dans un magasin de bricolage. Et ça suffit. Et puis, si la personne voit qu'il y a un peu trop de stagnation parce qu'il a pris trois douches à la suite et que c'est son habitude, et ben, peut-être qu'il va falloir qu'il fasse un deuxième fossé d'épandage et qu'il augmente sa façon d'épurer ses eaux, quoi. En fait, normalement, c'est vraiment le propriétaire de la maison qui est responsable de l'utilisation et du traitement de l'eau. Donc, c'est à lui de réagir quand, par exemple, la famille s'agrandit ou que, inversement, il va se retrouver tout seul dans une grande maison. Normalement, il faudrait qu'on accepte l'idée, puisque c'est bien marqué dans la loi que c'est lui qui est responsable, c'est à lui aussi de réagir sur son système.
En l'occurrence, donc vous avez choisi ce mode, on peut dire écologique, d'usage des toilettes séparées des eaux ménagères, qui font que les eaux ont besoin d'être moins traitées pour le coup et d'être moins filtrées dans la mesure où elles ne sont pas polluées par les toilettes, notamment les matières fécales. Tout cela pose des questions, notamment d'un point de vue réglementaire, et notamment avec le SPANC. Le service public d'assainissement non collectif dépend des communautés de communes, des collectivités publiques et territoriales, et qui sont amenées à contrôler les manières dont sont faits les assainissements sur les propriétés individuelles non collectives. Qu'en est-il, justement, de la manière dont est reçue ces formes de toilettes sèches et d'eau grise séparées?
Alors, on va dire que c'est très variable. C'est-à-dire que chaque SPANC, donc le service public d'assainissement non collectif, chaque SPANC dépend d'un territoire qui est le niveau communauté de communes, qui peut être soit un service intégré à la Comcom, c'est le cas chez nous, en Bretagne romantique, soit en délégation de services publics, par exemple, souvent à Veolia, dans d'autres Comcom, je crois que du côté de Dole, c'est le cas, du côté de Dole, c'est le cas. Et en fait, chacun va pouvoir écrire son règlement et réagir à une certaine latitude, même très large, j'ai l'impression, pour réagir face aux différents types d'assainissement et de dossiers qui sont proposés. Nous, quand on a étudié notre sujet en 2017-2018 et qu'on a contacté notre SPANC pour voir s'il pourrait accepter un dossier sur la pédipuration, la réponse a été catégorique, c'était non. Un peu, même, on va dire, rayonné. Donc on a considéré que on verrait au fur et à mesure comment ça se passe. Et ben ça ne s'améliore pas. chez nous, c'est toujours des solutions qui ne sont absolument pas prise en compte, sachant que dans d'autres endroits en France et d'autres SPANC en France, c'est complètement toléré, voire ça peut être vu comme des bonnes initiatives, puisque c'est un moyen écologique d'agir. Même notre SPANC le reconnaît, dans le sens où, lors du dernier contrôle qu'on a fait avec eux, leur agent a été obligé de reconnaître que, les toilettes sèches, c'est promu partout, on les voit de plus en plus partout, dans les festivals, on ne peut pas avoir un festival Dings de Snow sans des toilettes sèches. Sur les aires d'autoroute, il y a de plus en plus de toilettes sèches, dans différents bâtiments publics, il peut y avoir des toilettes sèches. C'est quelque chose qui est positif et porté et dans la société, accepté. Même dans notre entourage, même des personnes âgées, quand on en parle, ont quitté la vision des toilettes à l'ancienne qui peut justement la cabane au fond du jardin et comprennent parfaitement la démarche des toilettes sèches. Et maintenant, de façon assez ridicule, c'est les eaux ménagères qui bloquent. Donc c'est-à-dire que notre SPANC ne nous bloque pas sur les toilettes sèches, mais sur le fait qu'on rejette nos eaux ménagères directement dans le terrain en pédo-épuration. Et ça bloque essentiellement parce qu'ils ont décidé, c'est non écrit dans leurs règles, mais ils ont décidé de s'en tenir exclusivement à l'arrêté qui cadre les services de contrôle du SPANC et au fait que tout dossier doit répondre à des agréments. C'est-à-dire que par exemple, nous, on pourrait par exemple faire le choix d'une phytoépuration. Sauf qu'une phytoépuration, l'agrément, c'est 8 mètres carrés minimum. 8 mètres carrés minimum, avec 30 litres d'eau par jour, les plantes, en 2 secondes, elles vont sécher sur place. Et au bout de 2 ans, le SPANC pourrait revenir et nous dire « Vous avez une phytoépuration qui ne fonctionne pas, toutes les plantes sont mortes, recommencez. » Donc ça serait complètement inutile de faire 8 mètres carrés. Et en même temps, on nous refuse de mettre 1 mètre carré puisque c'est hors agrément, hors du cadre de l'agrément de la phytoépuration. Donc en fait, on a déjà rencontré le responsable du SPANC de notre Comcom et l'élu en charge du SPANC. Non seulement ils n'ont pas de solution puisqu'ils refusent de sortir du cadre strict, mais en plus, ils continuent à nous dire qu'il faut qu'on se mette en conformité. Donc nous, on est tombé dans un espèce de piège kafkaïen où on n'a aucune solution à mettre en place. Et en même temps, on a des pénalités. Donc cette année, on a payé 426 euros. Et tant qu'on ne se met pas en conformité, on continuera à en payer avec une augmentation de ce montant qui, sous 4 ans, va atteindre à peu près 1200 euros.
Donc si je comprends bien, en fait, votre mode de consommation d'eau, qui est assez économique et sobre, fait que les systèmes d'assainissement qui sont promus, notamment par les services, ne conviennent pas dans la mesure où ces systèmes d'assainissement vont être surdimensionnés par rapport à votre consommation d'eau.
C'est ça, en fait, on est hors norme, non pas hors norme pollueur, mais on est hors norme non pollueur. Donc, c'est là où on est vraiment dans le truc kafkaïen et absurde, c'est que on devrait, en fait, consommer 150 litres d'eau par jour, dont 30 de chasse d'eau. Et comme on ne fait que 15 litres, dont aucune chasse d'eau par personne, on n'a rien dans les normes françaises qui nous permettent de le faire de façon légale. Je ne vois pas, en fait. On est obligé de sortir du cadre légal si on veut une solution qui corresponde à l'effluent de notre maison.
La situation dans laquelle vous êtes, vis-à-vis notamment du SPANC, fait que c'est soumis à l'appréciation des agents du SPANC et que la loi, finalement, ne dit rien, permet les toilettes sèches, mais oblige les gens qui utilisent les toilettes sèches à être dans des formes d'assainissement qui sont, eux, conventionnelles, alors que ça ne correspond pas à leur consommation d'eau et à leur usage de l'eau. C'est bien ça ?
C'est exactement ça. Et c'est un sujet qui a du mal à être revu et revisité, voire porté par les élus. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a déjà quelques années. La réponse a été que c'était déjà cadré, que c'était pas la peine de s'occuper de ce cas-là, et que il y avait déjà la réponse dans la loi, alors que la réponse dans la loi, justement, manifestement, n'est pas adaptée. Récemment, en mars de cette année, il y a un élu qui a posé une question au gouvernement. Je crois qu'il n'y a pas encore eu de réponse sur. C'était sur le SPANC, c'est un peu un autre cadre, mais bon, quelque part, ça nous touche un petit peu, qui se plaignait de certains abus de certains SPANC qui peuvent contrôler plusieurs fois les mêmes assainissements dont on sait très bien qu'ils sont non conformes. Du coup, ça fait un coût conforme ou non conforme. D'ailleurs, ça fait un coût pour la personne qui va être contrôlée si c'est non conforme. On a par ailleurs, on connaît quelqu'un qui a un assainissement non conforme et qui s'est vu reprogrammer l'année suivante un contrôle. Donc, il y a une certaine pression qui est sans doute faite comme ça sur les utilisateurs. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que, alors, bien sûr, il y a des il y a certainement plein d'assainissements non collectifs qui sont non conformes et polluants. Et à cela, il faut pouvoir leur proposer une solution qui ne coûte pas 10 000 euros ou 15 000 euros en fonction de ce qu'il va falloir refaire. Il faut pouvoir leur proposer une solution qui soit à la fois économique et écologique et en fait extrêmement vertueuse, qui est de séparer les eaux vannes, donc passer en toilettes sèches, des eaux ménagères qui après peuvent être gérées de façon extrêmement économique. Et passer en toilette sèche, ce n'est pas forcément notre solution hyper rustique. Aujourd'hui, il y a du matériel qui est commercialisé, qui sont, j'allais dire, inodores, aussi bien dans le matériel que dans la façon de le traiter et de l'entretenir. Vous ne voyez pas grand-chose, c'est ce qui peut se trouver sur les aires d'autoroute, par exemple. Bref, quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une toilette normale et que n'importe qui pourrait adopter, en fait.
Il y a aussi donc le fait que ce soit laissé à l'appréciation des différents Spanks, ce qui signifie aussi que dans la loi elle-même, et là j'en reviens justement à cette étude qui est menée par l'INRA, dans la loi elle-même, finalement, il y a la manière dont les eaux grises sont utilisées, sont filtrées, ce n'est pas cadré dans la loi, il n'y a rien d'écrit. Ce qui laisse du coup au Spank, une très grande... Il y a une sorte de vide juridique au niveau de la loi.
En fait, ce n'est pas vide, c'est juste que la loi écrit qu'il faut les gérer comme des toutes eaux, ce qui est une incompréhension de la nature des eaux ménagères. Donc en fait, la loi a écrit quelque chose de débile, soyons clairs. Et donc, il y a des spanks qui vont soit appliquer des choses débiles, soit il y a des spanks qui vont dire, ils prennent en fait leur casquette d'expert technique hein, dans ce cas-là, et ils disent, faut faire autre chose avec ces eaux ménagères. Donc ça dépend aussi, je pense, essentiellement de ce que veulent bien... réfléchir les élus sur ces sujets-là. Et bien sûr, le summum, ce serait d'arriver à faire changer la loi, mais même ça, ce sont des processus qui sont compliqués. D'après le RAE, l'arrêté est en réécriture depuis déjà 7 ans. Donc, en tout cas, le contact qu'on a eu là-bas nous a dit ça. C'est 7 ans et c'est toujours pas arrivé à être passé, sachant que c'est un arrêté, c'est même pas un vote. Donc, c'est qu'il y a clairement des sujets... de blocage sur la définition des eaux et comment gérer ça. Je pense que... Alors après, c'est peut-être des visions hygiénistes, je ne sais pas. Alors qu'il y a un sujet clair actuellement sur la réutilisation des eaux, que les eaux ménagères sont typiquement des eaux très faciles à réutiliser pour arroser son jardin, même si c'est juste des rosiers ou un arbre fruitier. Ça ne va pas faire des choses dangereuses derrière, ni pour la terre, ni pour les plantes, ni pour quoi que ce soit. Donc, ne nous privons pas de ça. Allons-y, il faut foncer, là, parce que la pluviométrie, elle est un poil déréglée sur nos pays, et ça ne va pas aller en s'améliorant.
Le réusage, c'est vachement intéressant. Et donc, ça s'appelle le réuse en Europe. Donc, c'est vraiment un sujet actuellement, puisqu'il y a vraiment de la sécheresse, et c'est... pas bête d'utiliser l'eau qui sort des maisons pour alimenter les cultures et toutes ces choses-là. Le problème, c'est qu'en fait, on est bien sur un cadre qui est, en fait, les maisons ont un tuyau d'eau unique qui sort de leur maison. Et en fait, à la fin, on a une eau très polluée. Donc en fait, soit on reste dans ce cadre-là et il faut dépenser énormément d'énergie, de filtres, de choses pour traiter l'eau, la stocker et pouvoir l'envoyer ailleurs, soit on fait déjà... Ce qui n'est pas très difficile, quoi, une séparation des deux eaux. Une fois qu'on sépare les deux eaux, on a une eau qui est quasiment propre, quoi, et qui peut être balancée directement dans les champs, utilisée sur des cultures, avec un gros filtre et pas beaucoup d'énergie, voire peu d'énergie, on peut faire ça. Mais en fait, les études, elles sont toujours dans le cadre d'une maison avec des toilettes humides. Comment on fait pour, et avec des questions qui sont, à mon avis, assez folles, c'est comment on fait pour la reboire ? Honnêtement, on devrait avoir des eaux de boisson, et puis après, l'utilisation, elle est en fonction de la pollution. Mais si on commence à dire on mélange tous les eaux ensemble, et puis qu'après on fait un filtre pour leur mettre au début, c'est de la sur-ingénierie, quoi. C'est autant, en fait, pas polluer l'eau au début, pour avoir après une eau propre et réutilisable, quoi.
Merci à vous, Florence et Antoine.